This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Mais qui a encore besoin d'Ops aujourd'hui? De toute façon, les rockstars, c'est les développeurs. Les admin 6, bah, c'est has-been. De toute façon, avec l'IA et les services managés, on peut se débrouiller sans eux. Les ops, évidemment. Hein. Mais finalement, c'est quoi un service managé? Et pourquoi on peut en avoir besoin? Eh bien, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et bienvenue, chers compagnons, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Et si tu ne fais pas encore partie de la communauté des compagnons du DevOps, on est sur un forum, on discute ensemble et on aborde souvent ce genre de problématiques. Donc si ces problématiques-là t'intéressent, si tu écoutes cet épisode et que tu as envie de discuter avec d'autres ops ou d'autres devs, parce qu'il y a aussi des devs sur la communauté des compagnons du DevOps, eh bien rejoins-nous. Et je suis aujourd'hui avec Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Avec Damir. Bonsoir Damir.
Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, bien sûr.
L'épisode est diffusé à 8h du matin. Et bonjour René.
Bonjour Christophe.
Alors, on va parler aujourd'hui de service managé. Alors, je vais vous laisser beaucoup la parole parce que moi, les services managés, c'est pas mon truc. C'est moins mon truc que vous, en tout cas. Et on va commencer par parler un petit peu de définition et de ce qu'est un service managé. Et justement, le premier point, c'est le point que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est finalement le service managé. Est-ce que c'est pas un peu entre l'infrastructure as a service et la plateforme as a service? Est-ce que on n'a pas un petit peu des deux? Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit passage-là? Est-ce qu'on est entre l'IAS et le PAS?
Ah, je dirais même que des fois, on est sur du PAS, quasiment, hein, sur certains services. Après, du coup, pour le définir, parce que je pense qu'on va redéfinir du coup. Le service managé, globalement, ça va être tout simplement que vous avez le IaaS, donc l'infrastructure à service, où en fait, vous laissez en fait la tâche à une autre personne, donc à une entreprise externe, de gérer vos serveurs, votre réseau et les ressources basses de la couche, en fait, tout ce qui est physique. Donc, c'est eux qui vont aller racker les serveurs, c'est eux qui vont aller racker les switches, faire des interconnexions, etc. Donc, globalement, ça vous enlève une grosse partie du travail, y compris des tâches qui étaient un peu plus transverses, comme gérer la clim, gérer des choses comme ça dans les data centers. On oublie souvent, mais c'est aussi une grosse tâche. Et du coup, c'est un hébergeur qui va faire ça pour vous. Donc ça, c'est le IaaS. Et après, en fait, au-delà du IaaS, vous allez avoir du coup ceux qui vont proposer du service managé. Donc globalement, avant, ce qui se passe, c'est que si vous faites du IaaS, vous allez devoir gérer votre OS, vous allez devoir gérer vos machines, gérer la taille qu'ils vont faire. Vous allez surtout devoir gérer le fonctionnement de votre système. Si vous installez un Nginx dessus, vous allez devoir le mettre à jour. Si vous installez une base de données, vous allez devoir le mettre à jour, la backuper. Donc vous allez devoir gérer tous ces aspects-là. Donc tous ces aspects qui sont en fait au niveau middleware. Middleware, c'est en fait ce qu'il y a sur l'OS, entre l'OS globalement et du coup ce qui va exécuter, entre l'OS et l'utilisateur, donc c'est ce qui va exécuter le code, ce qui va en fait faire gérer toutes ces actions-là, en fait, qui va être juste au-dessus de l'OS, ça s'appelle le middleware. Et cette action, ces middleware-là, ils peuvent être gérés en fait par le provider, auquel cas on parle de service managé. Je donne, si on garde mon exemple de base de données, ma base de données, si je la prends en IaaS, j'ai mon serveur, je vais devoir faire mon petit apt-get install MySQL, la configuration, après je vais devoir faire les backups. Si jamais je prends un service managé, je vais juste aller sur l'interface ou mieux bien sûr, et aujourd'hui ce qu'il faut faire, utiliser Terraform et dire moi je veux une base MySQL dans telle version, tu me fais les mises à jour de sécurité automatiquement, tu me fais tu me la redondes sur 3 régions pour avoir de la sécurité en cas de problème. Et tu vas du coup me faire des backups automatiquement toutes les nuits et tu vas me les garder du coup un mois. Donc globalement, ça simplifie quand même un gros aspect de notre métier. Ça nous enlève pas mal de tâches qui sont souvent pas les plus intéressantes, notamment tout ce qui va être run, gestion de la mise des upgrades de version, gestion de vraiment des backups entre guillemets, de les mettre en place et les choses là. Donc ça simplifie quand même pas mal la vie aujourd'hui. Et souvent sur des choses un peu des middleware un peu complexes et complets, on se rapproche de la plateforme à service, clairement.
Moi, je rajouterais en plus à tout ça les espèces de services tiers, type, je sais pas, des services comme Pingdom ou StatueCake, par exemple, qui sont finalement des services de monitoring de ce que tu veux, et en fait, tu loues leur capacité à pouvoir pinguer, faire des tests avancés pour toi sans que toi tu aies à mettre en place ce genre d'infrastructure ou de service qui peuvent être pénibles aussi. Et pour moi, je mets ce genre de service aussi dans la même catégorie que tous les services managés, aussi bien IaaS ou PaaS que vient de citer Damien.
Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, ça monte aussi même limite à l'application as a service, hein, presque, parce qu'on peut avoir de la CI, enfin de l'usine logicielle managée, hein, chez GitHub, GitLab, Microsoft, et puis du mail managé, voilà.
Ah, ça, c'est même totalement du pass, en fait, vu que tu vas t'adapter, tu vas juste demander quelque chose et il va le faire. C'est même plus pour moi du service manager, en vrai. Ce service manager, tu vas quand même du coup interagir avec quelque chose un peu. C'est comme si je donnais. Je sais pas, j'ai pas spécialement d'exemple, mais pour moi, là, on est clairement plus sur du full pass en fait. Donc pour ça, la limite, au final, elle est assez floue entre les deux. Il n'y a pas une limite brute où on se dit ah ben c'est ça ou c'est ça.
Bon, je suis assez d'accord. Y a pas de. Enfin, c'est progressif. On va de l'un à l'autre en utilisant plus ou moins de services managés. Alors c'est vrai que je disais que je suis moins à l'aise parce que moi je suis plutôt du genre à utiliser beaucoup de IaaS et moins de services managés. Mais bon, j'en utilise, hein, mais pas autant que certains.
Ouais, je pense que ce qu'on peut dire, c'est quand même c'est des services qui permettent de se focaliser vraiment sur la partie qu'on juge la plus importante et déléguer toutes les parties annexes, quoi.
C'est le vrai enjeu des services managés, c'est pour ça qu'ils sont utilisés. C'est que beaucoup de personnes, surtout dans les petites entreprises, on ne peut pas réinventer la roue. Et si on réinvente la roue, on n'aura jamais le bon niveau de qualité. Donc aujourd'hui, on se dit, la décision qui n'est pas une décision technique, hein, qui est vraiment une décision business, de se dire, nous, notre focus, c'est notre cœur de métier. Si notre cœur de métier, c'est de vendre des patates, je n'ai pas envie de passer la moitié de ce que je gagne par an dans le développement d'une plateforme de gestion de l'intendance. Moi, ce que je veux, c'est vendre mes patates. Moi, je m'en fous du reste, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est cette approche-là qui s'appelle, qui est orientée approche business first, qui va, du coup, aujourd'hui, un peu pousser, qui a poussé l'adoption, en fait, des technos, du coup, en manager.
La première promesse, c'est effectivement, concentre-toi sur ton cœur de métier et pas sur les à côté qui te permettent de livrer ce que tu produis, quoi.
Oui, ça permet en plus de pouvoir aller plus rapidement, de développer plus rapidement des choses, de faire appel à des services managés. Et en effet, c'est ce que je dis souvent à plein de gens qui hébergent leur propre GitLab. Je leur dis, mais prenez une solution en ligne et vous embêtez pas à ça. C'est pas votre business d'héberger et de maintenir votre GitLab. C'est déjà compliqué. Donc, si en plus vous faites ça en plus de votre business, vous faites moins de business.
Ouais, moi je peux illustrer juste un petit peu ça. C'est par exemple, là j'ai un client qui a fait, on a mis en place pour lui un plan de continuité. Donc parce que en fait il travaille principalement on-premise, il a son infra à lui, mais il se trouve qu'il va la déménager, donc du coup il y a une interruption du service on-premise, et du coup pour continuer le développement de l'applicatif sur lequel on travaille, on met un plan de continuité et pour une raison, on est allé vers Azure DevOps. Et un des avantages, c'est que, juste tout bête, j'ai pas à gérer, par exemple, l'installation d'une solution similaire. Si j'étais parti sur du IaaS plus installer quelque chose, j'ai pas à gérer les backups, etc. Tout ça, donc ça permet d'aller vraiment plus vite et puis de pas se préoccuper de ces parties-là qui sont pourtant vraiment essentielles et de les faire entre guillemets faire par le provider, quoi.
Ça permet de se concentrer finalement sur les compétences qu'on a en interne et pas aller à chaque fois apprendre de nouvelles choses. J'imagine si on fait appel à des services managés de services qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, mettre en place un agrégat complet de MySQL complètement au dispo, ce genre de choses, c'est pas non plus, ça se fait pas les doigts dans le nez. Donc j'imagine qu'aller vers des services managés, ça peut nous aider dans ces cas-là, non ?
Disons que ça se fait, mais en fait, tu vas passer beaucoup de temps à chaque fois un peu à réinventer ton truc de ton côté. Tu n'auras jamais le niveau de finition qu'un service manager chez AWS, chez GCP ou même chez Scalaway. Parce que bah, tu es tout seul, entre guillemets, dessus. Souvent, tu n'auras pas forcément assez de temps pour développer le truc. Et pour moi, le gros, gros avantage des services managés, c'est le run, en fait. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de cas. Souvent, quand je vois des choses on-premise, c'est des choses qui ont été faites à un moment en mode « Non, mais c'est facile à faire, le MySQL, on installe ces deux commandes. » Ouais, alors, ces deux commandes ou un cookbook qui a été importé à bien sale sur Ansible, derrière le truc, il n'y a pas de gestion de run, il n'y a pas de monitoring, les backups, ils n'ont jamais été testés. Donc bon, il marche peut-être, peut-être qu'il ne marche pas, on ne sait pas, ben on le verra le jour où on aura un incident. Sachant que moi, je dis toujours, hein, si vous n'avez pas testé quelque chose, backup ou PRA, considérez qu'il ne marche pas en fait. Ben, ne considérez même pas qu'il y en a un ou qu'il fonctionne. Hein. Ne considérez pas. Il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas ces aspects-là. Et tous ces aspects, au final, c'est des aspects qui sont très importants et qu'on n'avait souvent pas le temps ou que les gens n'ont souvent pas le temps de mettre en place et qui étaient un peu abandonnés parce qu'ils ne sont pas primordiaux pour le faire marcher au moins de manière basique. Et aujourd'hui, ça nous permet de, je pense, le service manager de faire des choses beaucoup plus complètes là-dessus et se concentrer un peu sur l'efficacité de notre travail et le qualitatif de ce côté-là.
Ouais, clairement, il y a un problème de masse critique. Hein. Je pense que essayer de refaire ce qui est fait par des équipes comme chez AWS, je me demande bien le nombre de personnes qu'ils ont, par exemple, pour gérer juste la partie database, service manager, mais je pense que c'est conséquent. Et ouais, c'est impossible de faire la même chose sur. Enfin, c'est compliqué, quoi. Sur des petites entreprises ou même sur des assez grosses, avoir le budget pour faire ça, c'est pas évident.
Ce que je comprends, c'est plus on est petit, plus on a d'intérêt à aller vers les services managés. Parce que quand j'ai bossé pour des boîtes comme Orange, Casino ou autres, qui sont quand même des boîtes où il y a plus de 500 personnes à l'informatique, là, tu leur parles de services managés, bah déjà, ils ont leur propre data center à eux, ils les exploitent eux-mêmes, donc peut-être qu'ils vont se poser des questions avant d'y aller, même si un jour, ils iront.
Ouais, mais même, tu vois, sur ce genre de structure, des fois, ils font des choix sur les technos qui sont mis à disposition parce qu'ils peuvent pas couvrir la même chose que ce que font certains cloud providers.
Oui. Donc, d'ailleurs, ils ont même des catalogues de services où si tu sors de ce catalogue de services, c'est même pas maintenu et t'as même pas le droit à la DSI, elle t'interdit d'y aller. Il y a même des langages imposés parfois dans ces boîtes-là. Vas-y, oui. Venir.
Mais après, aujourd'hui, il faut aussi voir que bah, les stacks se complexifient, en fait. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait une stack, on ne veut pas juste deux serveurs dans un coin. Donc, à l'époque, maintenir sa solution interne, quand tu avais besoin de deux serveurs, deux VM dans un coin, honnêtement, en une demi-journée, tu traquais des serveurs physiques, tu te mettais dessus un Xen ou un VMware avec un vCenter. Tu avais globalement ta base pour commencer à proposer des services du coup à la demande. Mais le gros souci aujourd'hui, c'est qu'avec des choses qui sont vraiment diversifiées, qui demandent vraiment, on ne va plus te demander juste des machines, on va te demander, bah, du coup, les devs vont te demander des choses de plus en plus différentes, des clusters Kubernetes, de la base de données, ils vont avoir des exigences qui sont de plus en plus diverses. C'est très dur de s'aligner là-dessus et de garder et de maintenir tout ça, en fait. Parce que ce qu'il faut voir, c'est maintenir aussi. Ce n'est pas tout de mettre des nouveaux services, il faut les maintenir dans le temps, il faut gérer les patchs, etc. On a aussi aujourd'hui bah, des choses comme Terraform. J'utilise que Terraform, en fait. Moi, je n'utilise plus de console du tout. À tel point que quand je peux, je les désactive chez les clients, les consoles en création. Et du coup, je me dis que bah, quand tu dois maintenir du coup, ton évolution d'infra et tes services, plus encore les providers Terraform, plus encore la documentation, plus les tests de sécurité, mais en fait, très vite, quand tu regardes, ça devient empirique. Et très peu d'entreprises peuvent se le permettre. Et je dirais plus que très peu d'entreprises ont un intérêt à se le permettre, en fait.
En fait, je pense que c'est vraiment la clé, ce que tu dis, c'est que déployer déjà, c'est déjà du boulot, mais en plus, après, maintenir en condition opérationnelle, ça, c'est vraiment la difficulté, quoi.
Ouais, je vais me permettre de faire l'avocat du diable, mais c'est pas aussi tranché que ça, parce que ça dépend, en fait, tout ce qu'on évoque là, c'est juste une question et une gestion de tes priorités sur le prix que tu mets. Si tu acceptes pour une raison X ou Y, si tu estimes que pour une raison X ou Y, c'est plus stratégique et plus prioritaire d'avoir tes services on-premise, peut-être que le service managé offrira des SLA hyper intéressantes, voire même des features que toi tu ne sais pas encore maîtriser, mais ton business fait que tu peux pas forcément en profiter. Et. Moi, par exemple, là où je suis, on fait quand même pas mal d'on-premise. Je me souviens que dans un précédent podcast, une fois, j'avais raconté que je maintenais une stack ELK moi-même, et vous me regardez en me disant mais sombre fou. Et je vous promets que ça marche bien et que je passe pas de temps de run dessus et que j'ai fait des tests de scalabilité, de restauration, etc. Mais bon, bref, et donc je fais pas mal de on-premise, mais j'utilise aussi du service managé quand c'est possible. Et en fait, moi, ce qui me permet de trancher essentiellement, c'est le prix qu'on accepte derrière les projets. Moi, effectivement, il y a plein de sujets sur lesquels je vous rejoins à fond. Sur le côté, ça réduit le run d'une force qui est sans comparaison. Bah, c'est sûr que si le prix qu'on est prêt à mettre sur le projet me permet d'aller vers ça, bah, ok. Mais quand c'est pas le cas, et que c'est des sujets où je pense que j'ai suffisamment de matière pour pouvoir faire les backups, le monitoring, etc., on le fait en interne et ça marche aussi, quoi. Ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment un curseur qui, je pense, est essentiellement drivé par les sous que tu mets sur ton projet.
Rassure-toi, Erwan, on va revenir sur la facturation tout à l'heure.
Pour moi aussi, l'autre méga avantage, c'est le côté compétence. C'est que moi, je reprends, j'ai en tête plein de startups qui, quand on commençait, c'était quelques devs, par exemple, qui n'avaient pas forcément des compétences et l'envie de passer du temps sur de l'infra, sur tous ces sujets-là, et qui avaient envie de shipper vite. Et comme c'était des projets qui se montaient, ils regardaient pas trop à la dépense pour avoir un MVP. Et donc, du coup, le service managé, c'est quand même une super promesse là-dessus, parce que sans avoir à se prendre la tête et de façon assez rapide, donc on reprend les différents avantages qu'on a cités avant, des gars dont c'est pas du tout le métier, ils pop des choses hyper fiables, complexes, et sur lesquels ils peuvent baser leur MVP. Et du coup, sans avoir aucune compétence et de personnes qui passent de temps là-dessus. Et ça, c'est aussi une grosse promesse, quoi.
Ouais, alors ça, je me méfie parce que le nombre de fois où je suis arrivé dans des situations, on me dit, globalement, avec le cloud, en fait, on a laissé les développeurs s'occuper de tout. Et maintenant, en fait, on s'est dit que c'était bien d'avoir finalement une équipe d'ops parce que c'est empirique, ça part dans tous les sens, on ne maîtrise pas les coûts, c'est géré n'importe comment. Aujourd'hui, le métier d'ops, il a changé, mais il existe toujours, et ces choses-là, c'est pas magique, en fait. Donc, je pense que c'est un peu ça, c'est un faux ami, en fait.
Alors, moi, je te rejoins vachement, hein, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je pense que, vu les profils qu'on a ici, on est plutôt aligné avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, mets-toi dans le cas de deux développeurs qui doivent monter un projet et tout, la promesse du service manager, elle est super pour ça. C'est que, ok, on va pas se prendre la tête avec des réplications MySQL, de la haute dispo, un CDN ou je sais pas. En fait, tout ça, je peux l'avoir entre guillemets en trois clics ou en quelques lignes de Terraform. On revient sur la rapidité, on met de côté le prix parce que je sais que ça va être abordé après, mais c'est une promesse qui est géniale pour des gens qui, par exemple, n'ont jamais configuré tous ces trucs-là, quoi. Et ça ne leur demande pas de temps, pas d'énergie et pas de compétences. Donc c'est super.
Ouais, c'est plutôt quelques clics que du Terraform, hein, pour les développeurs. Et puis, moi, je pense en effet que c'est bien pour les startups ou les petites entreprises qui démarrent, parce qu'en dessous d'un certain seuil, tu démarres, tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs, donc tu n'as pas de contraintes finalement d'échelle. Donc là, les services managés peuvent être en effet un point. Moi, c'est vrai que quand j'étais encore freelance ou en prestation à 100% pour les boîtes, j'intervenais à partir du moment où elles avaient besoin d'élasticité, d'aller vers de la haute dispo et ce genre de choses, puisqu'avant, elle se débrouillait tout seul sur un serveur ou deux, quelques services managés. Mais après, en effet, quand il y a beaucoup d'utilisateurs, là, ça devient intéressant. Et du coup, je voudrais parler de serverless. Ah, Tu veux...
Non, mais excuse-moi, je renchéris avec exactement ce que disait Damien et qui rejoint ce qu'on évoquait avant de commencer le podcast sur le troll de « Ah bah maintenant qu'il n'y a que des services managés, j'ai plus besoin d'une équipe Ops ». En fait, je suis d'accord avec ce que Damien cite, c'est que t'en auras besoin, mais le métier est sensiblement différent, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un paradigme que peut-être certaines équipes tech n'ont pas encore fait ou quoi, mais en tout cas, si on est tous là, c'est qu'a priori, on a encore besoin de gens comme nous, quoi.
Ah bah, de toute façon, il y a AWS, là, il y a Raven qui était, je crois, il y avait un petit event du Raven aujourd'hui, et ils avaient montré un graphe. Il y a moins de 10% des entreprises aujourd'hui qui ont vraiment été dans le cloud pour faire des projets, des choses comme ça. Donc, quand je dis réel, c'est vraiment une approche là-dessus. Donc, ça montre qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Il y aura pas mal de transitions à faire. Et moi, je vois souvent des gens qui, bah, ils font au final du cloud comme ils faisaient de l'infra on-premise. Et il n'y a pas d'intérêt à faire du cloud si tu gères ça comme on-premise. En fait, reste on-prem, ça ne sert à rien. Donc, pour le coup, mais je pense que les services managés là-dessus, ils ont un truc à apporter. C'est, si tu vas dans le cloud pour faire juste de la VM, moi, souvent, je trouve ça un peu dommage quand même.
Oui, puis de toute façon, il y a, tous ces providers font de la formation parce que c'est pas trivial non plus, complètement trivial de mettre un service managé, ça peut être relativement simple. Après, faire une infra complète ou une application complète, voilà, ça demande quand même des compétences, quoi.
Oui. Mais après, avant, on les voyait pas parce que c'était géré par plusieurs équipes. Ce qu'on voit pas, c'est que quand on doit mettre une stack, rien qu'une stack aujourd'hui pour gérer, on va dire un truc très simple, des VM, du coup. Des VM, du stockage et potentiellement une base de données, on doit automatiser ça. Si on repart de zéro sans utiliser de service managé chez un provider, il y a plein de choses qu'on ne voit pas qu'on va devoir automatiser aussi. Comme les gestions des events, la gestion pour faire des scale-up, scale-down. On va avoir tout ce qui est, et ça on n'y pense jamais, mais tout ce qui est authentification. Il faut gérer l'authentification à un endroit, il faut la centraliser, il faut avoir des droits qui sont fins et des choses comme ça. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement complexes et lourdes à mettre en place. Et que souvent, soit on ne le met pas en place et on fait ça autrement, et ben on perd du coup en qualité, on ne va pas se leurrer. Soit du coup on les met en place, mais ça a un coût qui est énorme. Et comme on le disait au début, tu vas voir n'importe quel DSI aujourd'hui d'une boîte, tu lui dis bah écoute, t'as deux choix, soit tu vas dans le cloud avec ces garanties là qui sont quand même aujourd'hui bien au-dessus de ce qu'on peut se permettre en on-prem 80% du temps, soit tu pars là-dessus sur du cloud et du coup t'auras accès à tout ça, soit tu te lances dans quelque chose qui va durer des années où tu vas mettre en place toute une plateforme toi-même, etc., qui va te coûter une somme astronomique et qui derrière en valeur métier va rien t'apporter. Je dirais le choix il est vite fait, et c'est aussi c'est tout simplement parce que l'essence même du DevOps, c'est quoi le DevOps? C'est de réduire le time to market. Donc si à la personne tu lui dis soit tu vas sur le cloud et globalement ça va être rapide, soit tu réinventes toute la roue et ça va être lent, le mec il fait bah du coup je fais pas du DevOps, donc bah oui, bah du coup il va sur le cloud, et 90% du temps c'est comme ça.
Justement, je vais rebondir là-dessus puisqu'on parle de la disparition de l'Ops et du troll qui dit qu'on en a plus besoin. Et j'ai remarqué un truc, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que finalement l'Ops il disparaît parce que le DevOps est arrivé. Je parle du métier, hein, DevOps. Vous savez ce fameux métier DevOps. Et du coup, est-ce que justement, c'est pas se dire que bah, les Ops ils nous font chier avec leur truc là, leur procédure à 2 balles, ils mettent 3 jours ou 5 jours pour monter une machine et tout. On va faire du DevOps, on va aller dans le cloud et puis ça va être un claquement de doigts, on va tout mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de cet ordre-là, du fait on va rebrander le métier et puis on va changer les choses? Ou est-ce que les gens ne comprennent pas en fait tout ce que c'est?
Je pense qu'ils ne comprennent pas parce que tout ce qui est, comme tu dis, les serveurs qui mettent des jours à venir, etc. 3/4 du temps, ce n'était pas de la technique. Hein. 3/4 du temps, c'était le temps de passer la commande, de prévoir une intervention en DC, de le raquer, que la personne elle mette dans le ticket que le serveur a été raqué, que l'Ops voit le ticket, qu'il installe ce qu'il faut dessus, qu'il communique au dev, que le dev voit le ticket. En fait, tu passais par beaucoup plus de steps qui n'étaient pas automatisés très souvent, et du coup, bah, toutes ces steps-là, bah, ça te faisait de la latence. Et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a plein de gestions dont là, on ne parle pas, mais on en reparlera du coup, comme je disais tout à l'heure. Et pour le coup, je pense que c'est ces steps-là, en fait, qui ont fait qu'on ait l'impression que l'Ops, il mettait du temps, il disait toujours non. C'est juste que derrière, il y a pas mal de contraintes qui étaient, du coup, gérées par ces personnes-là, qui, au final, géraient pas que de l'informatique, ils géraient aussi du budget, géraient aussi des interventions, des plannings, des choses comme ça. Et en fait, bah, ces choses-là, pour moi, elles mettaient de la latence. Et c'est juste un rebranding, alors que notre métier, foncièrement, il n'a pas changé. On gère l'infrastructure. Que l'infrastructure, elle ait un peu changé et qu'elle offre aujourd'hui plus de possibilités, qu'elle soit plus souple et de ça, mais elle nous a apporté de nouvelles contraintes. Bah du coup, c'est juste une évolution du métier, mais il n'y a pas eu de changement en soi.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, le métier va vers plus, se rapproche un peu plus du développement parce qu'on fait de l'infra as code, donc il faut un peu des compétences en développement. Je pense qu'on va peut-être moins, sur certains sujets, moins en détail. Alors, monter un cluster MySQL, Postgres, ça demande des choses assez précises et enfin, il y a pas mal de choses à savoir. On se détache de ça, mais d'un autre côté, je pense que le spectre devient aussi plus large. On a besoin de connaître l'authentification, peut-être plus de choses finalement. Et c'est pas forcément plus facile, c'est différent pour moi. Mais il y a toujours besoin de quelqu'un qui fasse ça, effectivement, et notamment aussi les aspects sécurité, qui étaient pas mal remplis par les ops.
Du coup, vu qu'on parle de l'absence d'ops, on va parler de l'absence de serveur ou le serverless. Est-ce que le serverless, c'est un service managé? Est-ce que ça peut nous aider? Dans quelle mesure ça peut nous aider? Enfin, dans quelle mesure ça peut aider nos entreprises à aller plus vite?
Ah ben c'est clairement du service manager. Enfin, c'est final. Pour moi, c'est même plutôt la bonne définition du service manager. C'est-à-dire que quand tu es dev, tu te concentres juste à développer ton truc. Tu sais que tu dois l'uploader à un endroit et après, pouf, ça marche, quoi. Et tout ce qui se passe entre le moment où tu l'as uploadé et ce qui fait que c'est dispo, c'est des choses qui te sont totalement étrangères ou tu n'as même pas besoin de t'y intéresser. Et ça marche. Donc pour moi, on est clairement dedans, oui.
Oui, clairement, après le serveur, là, ça veut juste dire au final, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur, hein, ça tourne toujours sur quelque chose, bien sûr. Mais non, ça veut juste dire que on n'a plus à se préoccuper de ce qu'il y a derrière. On se concentre sur ce qu'on veut faire, on va plus partir du raisonnement de se dire, je suis en train de développer un code en PHP, donc il me faudra que j'installe un PHP-FPM. Ça, c'est le raisonnement un peu classique. Et le raisonnement en mode serverless, notamment les cloud native dev, qui est un métier qui aujourd'hui qui a de plus en plus d'importance pour envoyer un lien là-dessus aussi. Aujourd'hui, en fait, ces métiers-là et ces choses-là, ils vont plus penser de cette manière. Ils vont se dire, moi, j'ai besoin de faire du PHP. Mon PHP, je vais juste faire une lambda qui exécute du PHP et elle fera mon PHP. Je vais pas me casser la tête à imaginer un serveur, quel service va le faire. En fait, il y a un service qui va me faire tout pour moi sans que j'aie à me préoccuper de l'aspect serveur. Donc effectivement, c'est du manager un peu plus poussé.
Ouais, alors pour moi en fait ça c'est, enfin pour moi ça c'est aussi ce que tu retrouves avec du pass, hein. Tu pousses, tu te focalises sur ton appli et tu pousses, tu dis ce que c'est, en fait c'est du PHP, ça t'installe le runtime et tout. Je pense que le serverless, après ce qu'il apporte en plus, c'est le scale to zero en fait. C'est-à-dire que tu peux, si ton appli tourne pas, s'il n'y a pas besoin, tu payes pas quoi. Donc pour moi, les deux, c'est des services managés. Après, voilà, le serverless, c'est un peu un cas particulier d'un pass, quoi.
Ma description, c'était même plus que du pass, j'ai envie de dire, c'était du FAS en fait. C'est du function as service en fait. Ça allait encore plus loin dans l'idée. Mais je comprends, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec, mais j'introduisais juste ce nouveau paradigme, si j'ose dire.
Oui, après je suis d'accord. Effectivement, souvent quand tu fais du serverless, c'est effectivement sur plus des fonctions, donc une granularité normalement un peu plus fine que sur un pass.
Oui, du coup, tu déclenches sur des événements et non plus ton serveur il est là tout le temps, il tourne tout le temps, et puis du coup, ça amène la mutualisation encore plus importante. Ça c'est pas mal au niveau écologique.
J'ai travaillé un peu sur le sujet là pour une application par exemple qui fait de la transformation quoi, en gros un ETL. Et c'est vrai que par exemple c'est intéressant s'il n'y a rien à traiter, en gros tu payes pas. Si jamais tu as un truc qui arrive, qui déclenche un événement effectivement sur du S3 par exemple, hop, tu lances ton traitement et tu payes pour ce traitement là quoi.
Et puis quelqu'un d'autre peut utiliser la ressource machine pendant que tu l'utilises pas. On va faire un petit entracte, on va parler des services managés du cloud provider ou des services managés de software as a service. Donc en gros, est-ce qu'on prend une database managée chez son cloud provider ou est-ce qu'on prend une database managée chez un fournisseur qui fait que ça? Vous avez des avis là-dessus ou pas du tout?
Pas comme fournisseur qui ferait ça en fait.
Si, par exemple Mongo, Mongo Atlas te fournit un Mongo.
Ah ok, c'est dans ce sens-là, d'accord. Non mais j'ai du mal à voir le. Non, j'ai du mal à voir le sens, c'est peut-être moi.
Après, ouais, par exemple, Elastic fait ça. C'est clair qu'au niveau des ce que cherchent à faire les fournisseurs cloud, notamment AWS, c'est quand même essayer de garder les gens captifs. Là pour le coup, et du coup, ils vont tout faire pour que les gens utilisent au maximum leurs services. Et notamment, je pense que on doit se prendre des coûts réseau si on veut aller chercher de l'information hors de chez eux. Et du coup, ça incite plutôt à utiliser les services du provider. Après, il y a peut-être des cas où le service envisagé tourne déjà sous AWS. Du coup, peut-être que il y a moins de coûts. Je sais pas.
Ouais, bah justement, je peux apporter une précision là-dessus. C'est que par exemple sur Mongo, tu peux, si tu es sur AWS, tu peux dire bah pop-moi l'instance sur AWS sur la région où j'ai mes trucs, par exemple. Et après, tu as une espèce de configuration avancée avec les VPC pour faire en sorte que tout soit vu comme étant. Tout soit vu dans le même réseau entre guillemets, mais on revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est que ok, faire tout ça, bah, finalement est-ce que c'est, tu retrouves pas les contraintes d'avant, et est-ce que c'est pas plus facile de prendre directement l'équivalent chez AWS sans avoir à configurer de VPC ou je sais pas quoi.
Après, ce qui peut être sympa, alors là on dérive un petit peu, mais je pense qu'il y a des, je crois que c'est Confluent en fait et Microsoft, je suis pas sûr de mon coup, mais en gros le support, donc c'est Confluent, c'est ceux qui font Kafka, et je crois que le support Kafka est en fait chez Microsoft, est assuré par Confluent en fait. Du coup, c'est un peu le meilleur des deux mondes, j'ai l'impression, où tu souscris quand même à travers Azure au service, et en fait les gens qui s'occupent du support et qui forcément sont rétribués aussi sur le sujet, c'est ceux qui créent le produit, et je pense que c'est les meilleurs pour assurer le support. Et pour moi, c'est peut-être ça un des discriminants, c'est peut-être qu'en partant chez vraiment sur certaines solutions, chez le fournisseur de la solution, s'il a une plateforme SaaS, c'est peut-être là où il y aura le meilleur support et la meilleure connaissance de l'application.
Après, est-ce que moi, je pense qu'il y a c'est très contextuel, mais je vois très peu en fait de cas où tu as vraiment des besoins de support qui vont être aussi énormes. La plupart du temps, bah, par exemple, je prends l'exemple d'AWS, mais ça pourrait être GCP, ça pourrait être Scaleway, ça pourrait être plein d'autres choses. Je pense qu'à partir du moment où ils ont vraiment un souci sur un service qu'ils offrent et qu'eux-mêmes n'ont pas les compétences, ils ont les contacts chez les fournisseurs parce qu'ils ont travaillé avec eux, etc., pour aller les pinguer de leur côté. Et on oublie une chose, c'est qu'au-delà du fait d'avoir des problèmes de locking, entre guillemets, avec les outs, etc., pour moi, on oublie un truc très con, c'est qu'au niveau facturation, au niveau gestion, c'est beaucoup plus simple de centraliser. C'est aussi ce qu'a apporté le cloud là-dessus, c'est que tu as une plateforme, à un endroit, tu as toutes tes facturations, tu as toutes tes choses, même si c'est compliqué, on y reviendra tout à l'heure. Mais globalement, tu centralises quand même pas mal de choses qui étaient découpées. Et là, tu te dis, bah, si je prends chez chaque passe en fait mon truc, tu vas trop complexifier la vie, et à gérer ça, gérer les abonnements, gérer des interconnexions, moi, ça te complexifie ton truc tellement, je pense que c'est très rare, ou c'est, moi, je vois très peu de cas en fait où c'est vraiment quelque chose qui va te faire gagner du temps, de l'argent ou autre en fait. Pour moi, c'est un truc où la plupart du temps, bah, t'as pas grand chose à y gagner en fait.
Justement, on va en parler tout de suite en fait, vu que ça fait une bonne transition, on va parler des inconvénients, et on va parler de sous-sous, de factures et ce genre de choses, puisque tu en parles, Damir. Est-ce que justement il y a des soucis ou des pièges à utiliser des services managés en termes de facturation ou de coûts?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Non, moi je peux juste, une expérience qui m'est arrivée là très récemment, c'est par exemple le free plan. Donc c'est très bête, hein, mais il faut faire attention au free plan. Donc c'est un peu, ça permet de découvrir les services, etc., de faire une idée. Et des fois on démarre sur le free plan. Et on se retrouve bloqué parce qu'en fait, en l'occurrence, moi, ça m'est arrivé sur Azure DevOps. Donc, les artifacts, c'est limité à 2 gigas dans le free plan. On a rempli les 2 gigas parce que 2 gigas, finalement, c'est quand même pas beaucoup. Et par contre, bah, là, tout de suite, on nous demande de mettre la carte bleue pour aller au-delà, ce qui est normal. Par contre, ce qui est un peu rigolo, c'est que ça bloque tout de suite quand on touche le quota. Par contre, on peut la redescente entre guillemets si on efface des artefacts, en fait c'est pris que 24 heures après. Du coup, il y a quand même une forte sollicitation à mettre la carte bleue, quoi.
Mais après, les free plans, faut garder en tête que c'est quand même dans l'idée, c'est quand même un peu le principe du vendeur de drogue, quoi. Je t'offre la première dose et après tu payes. Moi, c'est pas un secret, je pense, hein. Faut pas se leurrer là-dessus. J'ai beau bien aimer AWS, je sais très bien que le free plan, c'est juste pour dire, on donne les ressources gratuites. Ben, c'est comme les crédits qu'on donne aux startups, hein. C'est pas parce que les gens sont super gentils et qu'ils vous donnent 15 000 balles de crédit par an. Ils sont en mode, aujourd'hui tu vaux rien, mais demain tu vas peut-être gagner un million par mois et tu vas lever 50 millions dans l'année. Moi, si je peux prendre ma part du gâteau, je suis chaud, en fait. Donc c'est dans ce sens-là. C'est un investissement pour eux. Faut être honnête. Moi, c'est un monde et dans le monde du business. Je pense qu'il faut arrêter de se leurrer avec des histoires de les gens sont gentils ou pas. Il y a une histoire de pognon à un moment et c'est tout. Là-dessus, je suis pragmatique. Mais oui, il faut faire attention au free plan. Effectivement, il faut penser à se dire qu'il finit là-dessus. C'est vrai qu'il y a un aspect dont je parlais tout à l'heure, je me permets d'enchaîner, qui est en fait tout simplement en fait la centralisation et la gestion de la facture. Parce qu'on a tendance à beaucoup critiquer le cloud sur l'aspect facturation, notamment avec l'apparition de tout ce qui est FinOps, etc., qui sont des gens qui vont être dédiés pour comprendre les factures et les gérer. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « bah oui, le cloud, en fait, c'est de l'arnaque niveau facture, ça coûte beaucoup plus cher, etc. » En fait, je pense que la situation, elle est un peu plus compliquée que ça. C'est tout simplement que tout est centralisé à un endroit, donc effectivement, la facture demande un peu de compétences pour être analysée. La plupart du temps, vous pouvez le faire vous-même quand vous êtes dans des petites infras, mais effectivement, quand j'étais dans des entreprises qui dépensaient littéralement des millions par an en cloud provider, oui, là, il faut des gens pour gérer la facture et les consommations. C'est normal, en fait, parce que si vous aviez été dans votre data center, ben, vous avez quelqu'un qui gère les facturations. Moi, je l'ai connu, hein. Croyez-moi, quand on doit aller raquer des serveurs dans un data center, c'est pas toi qui vas avec ta carte bleue directement sur le site de Dell et qui fait « alors, je vais en prendre 10, ça fait quoi ?» 70 000 euros, bah, livraison demain avec Amazon Prime, merveilleux. Alors, je troll un peu sur Amazon Prime, mais c'était pas comme ça. Il y avait des gens qui géraient l'aspect financier dans les DSI, à qui vous deviez faire des demandes, qui géraient des budgets. En fait, tous ces métiers-là, on les voyait pas. Bah, c'est des métiers qui étaient déjà. Aujourd'hui, ils sont plus proches de nous parce qu'ils interagissent directement sur une facturation fine où ils voient au niveau des services. Mais à l'époque, ils ont toujours été là. Donc, les gens qui me disent, bah, avant, on n'avait pas à gérer le budget, c'est totalement faux. Généralement, c'était le DSI qui le faisait. Mais souvent, c'était une personne de la compta qui gérait les DSI. Pareil pour les licences, hein. On parle des licences Windows. Gérer un parc de licences Windows, en soi, c'était déjà du FinOps, hein, de dire, alors attends, si je passe partenaire avec deux autres certifs, je fais un gain de 10% là-dessus. Bon, c'était déjà un bordel. Donc, ça, je pense que c'est un peu. Les critiques en fait sur la gestion là sont un peu faussées parce que les gens en fait voyaient pas cet aspect caché de l'iceberg. Et aujourd'hui, oui, t'as besoin d'un FinOps des fois quand ta facture est trop compliquée pour gérer tes coûts. Pas réduire forcément tes coûts, mais les gérer en fait et pouvoir être sur une ligne qui soit progressive et pas qui soit pas comme ça. Oui, t'en as besoin, mais t'en as toujours eu besoin en réalité. C'est juste qu'aujourd'hui, ça s'appelle FinOps, donc tout le monde est là entre guillemets à dire waouh, c'est vous avez vu le cloud, c'est compliqué et tout. Mais même si j'avoue que les factures AWS sont peut-être volontairement un peu dégueulasses à comprendre.
Après, moi, je pense le piège, oui, la facturation, après, elle est relativement compliquée, et puis il y a plein d'items. Ce qui est plus gênant, je pense, enfin, ou du moins où il faut se méfier, c'est la prédictabilité, en fait, de cette facture. Ça, c'est vraiment difficile à anticiper, en fait.
Mais moi, je pense que c'est le point qui fait le plus flipper les gens, en fait. Je dirais pas dans quelle boîte, mais j'ai connu une boîte où un jour, véridique, il y a un mec de la compta qui avait sorti qui a fait « Oula, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un truc de 50 000 euros, là, d'où ça vient ?» Et c'était des mecs qui s'étaient plantés sur du stockage et qui, en gros, faisaient tourner un truc qui prenait un volume ahurissant et qui n'était même pas utilisé. Et c'est un truc qui... imaginons on aurait eu ça en prémisse, bah en fait t'aurais saturé tes disques, t'aurais eu tes alertes machin et t'aurais cliné, bah là probablement que des alertes auraient pu être mises, mais ce qui s'est passé c'est que un peu silencieusement le truc a grossi, Et puis, tu payes à l'usage. Donc, effet domino et grosse facture. Et je me souviens que le gars qui était à l'origine de ce truc-là, il était tout penaud, quoi. Il a fait « Ah oui, mince, je me suis trompé dans mes confs. » Bah, ouais. Donc, le côté... Non, mais du coup, tu vois, le côté... Enfin, là, je parle d'une anecdote un peu à la con, mais c'est vrai que la projection que tu fais sur tes factures de services managés qui sont à l'usage, surtout quand tu as des systèmes avec du scale-up, par exemple, ou des choses comme ça, bah, ça peut être un peu délicat. Et j'imagine que des fois, avec tes équipes comptables, ça ne doit pas toujours être facile à rassurer, quoi.
Clairement. Après, je pense aussi que... Je dis juste ça et après je laisse la parole. Non, mais globalement, je peux faire un peu vite fait l'avocat du diable. C'est que cette problématique-là, comme je disais, elle n'est pas nouvelle, elle a changé de forme. Mais moi, j'ai déjà connu une boîte où à l'époque, je vous parle encore, c'était la DDR2 ECC. Donc ça remonte quand même pas mal. Où le manager s'était gouré en fait et il a appuyé deux fois sur zéro. À la place de commander 10 barrettes de RAM, il en a commandé 100. Et en fait, ils s'en ont pas rendu compte parce que c'était quand même une facture qui passait en dessous de la limite de review compta et il s'est retrouvé avec 100 barrettes de RAM. Donc c'était des erreurs qui existent et qui existeront toujours, sauf qu'aujourd'hui, elles sont effectivement, comme tu dis, c'est instantané, donc tu te le prends dans la gueule. Après, dans les cas-là, il faut aussi avoir, comme on disait, l'approche de se dire, on ne fait pas du blame, la personne, elle a fait une erreur, pourquoi elle a fait une erreur? Parce que tu l'as laissé provisionner ça, donc il faut que tu mettes après une limite. Je prends un exemple, les instances, en fait, dans les boîtes où je travaille, 80% du temps, on va mettre des limites, la personne n'a pas le droit de pop une instance avec 300 gigas de RAM, parce qu'il n'y a aucun use case qui va dedans. Donc du coup, on va mettre des limites comme ça. Donc il faut juste penser de cette manière-là.
Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas plus tard qu'une semaine et demie, on a fait des projections financières pour Frogit et on était un peu penaud devant le stockage objet. Parce que le stockage objet, déjà, on ne sait pas combien on va en prendre de gigas, même s'il y a un free tier chez Scaleway où on est. Mais surtout, c'est sur le transit des données. On ne sait pas trop non plus comment on va être mangé. Bon... On fait des estimations, hein, mais c'est vrai que sans mesure, sans supervision, on va avoir du mal au démarrage.
Ah non, mais c'est vrai que Scaleway, là-dessus, sont quand même plus simples à comprendre déjà. Mais si je peux me permettre, s'il y a des gens chez Scaleway qui nous écoutent, on veut bien une page à la AWS Calculator, mais qui s'appellerait Scaleway Calculator, on vous serait très reconnaissant.
Je remonterai ça à mes contacts de chez Scaleway, Scaleway Calculator.
Je l'ai déjà remonté, mais je me dis que si je remonte à plusieurs endroits, ça peut peut-être booster.
Oui, oui. Ne t'inquiète pas.
Ouais, je voulais juste dire que des fois, tu as aussi le cas où il faut se méfier. C'est du coup, c'est super efficace, c'est super rapide. Tu provisionnes des choses et puis ton projet, en gros, tu n'utilises pas les choses. Quoi. C'est arrivé chez un client. Tu n'utilises pas parce que pour différentes raisons, le projet prend un peu plus de temps, etc. Et là, ça, dès que tu as provisionné, ça compte. Donc, je crois que nous, c'était un cluster Elasticsearch, Synode, un truc assez balèze. Il a pas servi, ça a coûté, 15 000 euros ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, faut faire, ça aussi, c'est le revers de la médaille. Quand on commande des choses ou quand on provisionne des choses, faut vraiment les utiliser, quoi.
Mais encore une fois, tu vois, je trouve que ça, c'est pas nouveau. Moi, j'ai déjà connu des boîtes où tu faisais, une fois par an, tu faisais tour des serveurs, tu faisais, alors attends, là, on a 6 serveurs qui coûtent 15 000 balles. C'est, le projet, il a fermé il y a 6 mois. Personne nous a dit, d'accord. En fait, c'est juste que tu as déjà payé tes ressources, donc tu le vois moins, mais c'était encore plus vicieux, je trouve, à l'époque, parce que vu que tu avais payé, tu n'avais pas de surconsommation, donc tu n'étais même pas alerté, tu n'avais pas vraiment de KPI pour voir. Donc au final, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces problématiques-là, ce n'est pas vraiment des nouvelles problématiques, c'est comme le DevOps, en fait. Ce n'est pas des nouvelles choses, c'est des choses qui ont évolué. Je suis très chiant là-dessus, je le sais, mais je pense que cette vision, on a tendance un peu à l'oublier que, en fait, il n'y a rien qui est vraiment nouveau et qui est apparu nulle part.
Justement, est-ce qu'on peut sortir de la facturation et parler de la limitation technique des services managés? Parce que j'imagine que si notre cloud provider il gère tout pour nous, on n'a pas la main dessus, n'est-ce pas?
Je pense que c'est aussi un des trucs qui fait des fois peur sur le passage à des services managés, c'est de se dire « Ah ouais, mais est-ce que... on est toujours très convaincu d'avoir des besoins très, très pointus et spécifiques et que du coup, on se dit « Ah, ça va peut-être pas répondre à mon besoin et du coup, je ferais peut-être mieux de le faire moi-même. » Enfin, je schématise vachement, mais je pense qu'il y a plein de gens qui, je vois ça dans certaines des discussions que je peux avoir, qui ne vont pas forcément sur ces solutions en se disant qu'ils vont être bridés à un moment par leurs besoins, par l'évolution de leurs besoins ou quoi que ce soit. Et, Et bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que ça dépend vachement de ton cœur de métier, de tes projets. Mais en tout cas, effectivement, ça, c'est la crainte que tu soulignes. C'est des choses que j'ai déjà entendues plusieurs fois pour refuser de passer sur ce type de service.
Est-ce qu'on a d'autres limitations techniques avec les services managés ? Est-ce que vous en voyez d'autres ?
Bah du coup, limitations techniques, ça serait... Est-ce qu'on parle de vendeur locking déjà ou pas ? Ça, c'est la grande question.
On pourra aborder ça juste après.
On aborde ça juste après ? Limitations techniques, j'en vois pas spécialement d'autres. Il y a la disponibilité en fonction des régions. Après, aujourd'hui, c'est un peu une problématique qui est de moins en moins là, entre guillemets, dans la mesure où la plupart des gros clouds ont un minimum de régions qui sont disponibles. Même Scaleway, c'est encore assez localisé sur l'Europe, on va pas se le cacher, si on est aux États-Unis, c'est plus compliqué, etc., parce qu'ils n'ont pas encore fait le boom à ce niveau-là. Mais même, des offres comme OVH sont un peu éparpillées partout. Les principaux cloud providers sont quasiment partout. Il y a juste l'Afrique qui est un peu, je crois qu'il n'y a que AWS dessus. Mais autrement, oui, là-dessus, il y a moins en moins de limitations parce qu'ils sont présents un peu partout. Et après, sur ça, je pense que si jamais c'est pas dispo dans votre région, sera dispo à quelque chose qui est assez, assez proche.
Ouais, je suis d'accord. C'est une des principales contraintes, c'est que les services sont pas forcément disponibles partout au même moment. Ça peut arriver. Même si je pense que ça tend à s'uniformiser.
Oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais c'est de plus en plus rare. Après, je ne connais pas tous les providers, et je sais qu'AWS, il y a tendance à avoir une région historique dans chaque continent qui va les avoir un peu. C'est pour ça qu'en Europe, par exemple, beaucoup de gens sont en Irlande, parce que historiquement, c'est la région qui a généralement le premier les nouveautés.
Ouais, c'est ça, exactement.
Après, je pense que la limitation technique, elle est surtout sur du fine-tuning qui, en tout cas, moi, dans mon esprit, concerne vraiment que des cas vraiment très pointus d'usage, quoi.
Ouais, puis en plus souvent il y a quand même des possibilités de configuration assez assez balèzes, quoi. Souvent sur certains services managés, on peut aller assez loin, choix de la réplication, on peut même aller assez loin sur la configuration par exemple des databases. Après il faut faire attention, je pense. Il y a un point, je sais pas si c'est pas forcément une limitation technique, faut regarder le SLA qui est offert et pas tomber. On rejoint des points de disponibilité, savoir qu'est-ce qui est vendu, c'est pas du 100%.
Après, même une dispo à 99% n'assure pas, 99.999 n'assure pas que ça sera magique et que tout va bien se passer. Hein. Il y a des incidents, faut les prévoir et faut gérer pour être un minimum résilient, on va dire. Après, faut s'adapter en fonction de vos besoins, bien sûr. Hein. Si vous avez une application qui fait un truc ponctuel et qui est pas très importante, vous n'allez pas mettre sur 10 régions redondées. Avec 30 trucs de monitoring et une équipe dédiée, c'est sûr, mais adaptez-vous à vos besoins, réfléchissez, est-ce que vous avez besoin de disponibilité ou pas ? Si vous faites des objets connectés et qu'il ne peut pas marcher pour une raison X ou Y sans le serveur, déjà posez-vous une question de pourquoi vous avez fait ça, et deuxièmement, redondez ça un maximum.
Je pense qu'on pourra faire une émission sur les objets connectés de Edge.
J'ai des magnifiques anecdotes là-dessus.
On va le mettre l'ordre du jour pour l'année prochaine peut-être. On va pouvoir passer à la confiance, parce que j'imagine que si on utilise des services connectés et qu'on n'a plus d'ops chez nous, est-ce qu'on peut faire confiance à des entreprises tiers pour gérer notre business et notre infrastructure ?
Ah bah il faut, à partir du moment où tu les utilises, c'est le deal, hein ?
C'est un peu ça, oui. Moi, pour la petite anecdote, j'ai déjà connu une entreprise qui allait sur AWS et qui ne faisait pas confiance à AWS. Donc déjà là, on est sur un concept qui est assez intéressant. Et du coup, ils se retrouvaient à aller dans AWS à faire que de l'EC2 parce qu'ils n'avaient pas confiance dans les services managés. Donc au final, ils faisaient la même chose qu'on-premise, mais ça leur coûtait plus cher.
Ouais, alors c'est surprenant comme choix.
Si tu vas chez un vendeur comme ça, un provider, faut avoir un minimum de confiance là-dessus dans la relation que tu as avec lui. Et ça, encore une fois, je vais faire mon point chieur du jour, mais ça n'a pas changé. La plupart du temps, quand vous avez un data center, il n'était pas à vous. Faisiez confiance quand même au mec qui me fournissait le data center pour qu'il gère la clim, qu'il gère les problèmes incendies, les redondances électriques. Enfin, moi, je ne lui faisais pas confiance parce que quand il passait le ménage, il débranchait les deux baies qui étaient redondées. Donc du coup, je lui faisais moins confiance. Mais normalement, on lui fait confiance.
Oui, mais tu pouvais quand même louer des armoires et mettre tes propres machines dedans, tu vois.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau de confiance, il a changé. C'est comme tout ce qu'on disait avant, au final. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais moi, de ce que je constate, pour avoir fait beaucoup de legacy et de choses avant, je suis passé par des DSI un peu à l'ancienne, etc. C'est que toutes ces choses-là, c'est des évolutions, c'est pas des nouveautés. Ça a changé de niveau. Quand on gère plus forcément tout notre OS, mais on va gérer le service manager derrière, on va gérer des notions de achat, mais ça va être un autre niveau. Là, c'est pareil. Le niveau de confiance, ça peut être le même, parce qu'effectivement, tu lui donnes plus d'accès à des choses, tu vas lui donner plus de confiance, parce qu'il faut que tu y fasses plus de choses, mais la problématique ne change pas, tu dois faire confiance à quelqu'un tiers, ce qui va peut-être maintenir le cœur de ton application. Parce qu'au final, si ton data center, il est coupé, ça doit être tes serveurs, ton data center, il est coupé, ton application, elle est potentiellement coupée. Donc, tu avais quand même de la confiance, il avait quand même la main au final sur tout pour moi. Moi, sur le plus important, sur la disponibilité de ton application et de ton infrastructure.
Ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu dois faire confiance à quelqu'un.
Que tu le fasses à une personne A ou B, j'irai même plus loin, quand tu installes ton Linux, tu fais confiance dans les équipes qui vont gérer, qui gèrent Linux, qui gèrent ta distribution, tu fais confiance dans les équipes qui gèrent le kernel, tu fais confiance dans les gens comme Torvald, etc. Donc, cette problématique de confiance, elle est toujours là, on s'en rend moins compte, mais elle est très importante, effectivement, mais elle est présente à peu près tous les niveaux.
Et du coup, si on ne fait plus confiance à notre fournisseur, est-ce qu'on peut partir ? Vu que tu voulais aborder le vendeur lock-in, c'est le bon moment d'en parler.
Alors, c'est comme tout. Dans l'idée, on peut toujours partir. En vrai, ça dépend beaucoup de votre conception. Moi, j'ai tendance, quand je peux, à essayer de concevoir des choses avec pas mal de services managés, parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'aller sur du cloud, la plupart des clouds sans services managés. Autant faire des trucs un peu à legacy ou faire des qu'on appelle legacy, mais du cloud privé avec de la VM, ça marchera aussi bien, ça vous coûtera moins cher. Non, globalement, pour moi, le vendor locking, c'est un vrai faux problème. C'est un vrai problème parce que du coup, effectivement, si demain vous êtes sur AWS et vous allez sur GCP ou autre, même si vous avez tout fait en Terraform, vous devez tout réécrire parce que les API ne sont pas les mêmes, etc. Donc, oui, c'est un vrai souci. C'est clairement un souci. Mais est-ce que c'est un souci qui a toujours existé ? Oui, vous étiez toujours locké à quelque chose. Si demain, je faisais un cluster sur du VMware, comme on disait chez OVH ou autre, si je changeais de fournisseur, potentiellement, il changeait peut-être de méthode d'installation, je devais peut-être changer de système pour faire mon cluster. Donc, cette chose-là a toujours plus ou moins existé, encore une fois. Et sur les clouds aujourd'hui, moi, j'essaye le plus possible d'utiliser des services managés qui se basent sur des briques open source. Donc, si je prends un exemple, si je suis AWS, personnellement, c'est un choix personnel, moi je préfère proposer, mettre en avant des solutions comme Postgre dans du RDS ou du MySQL plutôt qu'un quelque chose qui va être du coup rattaché à AWS comme du Aurora ou des choses comme ça, même si c'est très proche, c'est pour une histoire de vendor locking, c'est que le jour où je veux passer par exemple je prends une infra très simple, j'ai un cluster Kubernetes, un load balancer et du coup une base de données Postgre, si je veux passer chez autre chose que AWS, la plupart des fournisseurs me proposent déjà ces briques parce que ça repose sur des briques en fait open source. Donc mon vendor locking, il est là, mais il est relativement faible en fait. Même si je dois réécrire mon code Terraform, si mon code Terraform il est propre et mon infra elle est propre, ça ne sera pas si long que ça en réalité.
Ouais, c'est pas forcément dit. Ça a quand même un coût qui n'est pas négligé, surtout quand tu ne connais pas forcément l'autre provider sur lequel tu dois aller.
C'est un coût, mais c'est un coût que tu as toujours eu, en fait. Quand tu devais déménager des serveurs physiques ou autres, j'en ai déjà fait des déménagements de serveurs physiques. C'est le bordel que c'est pour prévoir la logistique derrière, la coupure, parce que tu as une vraie coupure qui est longue, gérer les transferts de données, etc. C'est quelque chose qui est aussi compliqué. Donc oui, ça sera toujours chiant. Clairement, tu ne vas pas changer de provider tous les jours parce que tu vas passer ton temps à faire ça. Ce n'est pas un truc que tu vas faire tous les jours. Mais tu n'es pas dans une situation... tu peux te mettre dans une situation si tu fais que du lambda ou que des choses comme ça. Après, ça peut être aussi une solution. Tu dis, je fais un truc propre et si jamais je dois changer, j'irai ailleurs et je prendrai des gens compétents. Mais comme j'aurais bien conçu ma chose de base, j'y arriverai facilement. Mais après, c'est la plupart du temps, si tu conçois les choses d'une certaine manière, les concepts, on les commence à les retrouver chez tout le monde. La notion de VPC, tu la trouves chez Scalway, tu la trouves chez AWS, tu la trouves chez OVH, tu la trouves chez plein de gens. Toutes ces notions-là, c'est des notions basiques qui sont chez tout le monde. Faire du FAS, idem.
Je suis assez d'accord avec toi. Il vaut mieux utiliser des briques open source en service managé qu'utiliser les services un peu exotiques de son cloud provider. Parce qu'en effet, sinon, on est vraiment marié à lui et puis du coup, on ne va pas pouvoir changer. Et le cas que tu évoques est plutôt un bon exemple de ce qu'on peut faire et qui nous permet d'aller en fait n'importe où.
C'est ça.
Et en fait, le coût de transition, de changement du Terraform coûtera de toute façon moins cher que de réécrire tout un tas de pans d'architecture parce que tu seras passé de Aurora à PostgreSQL, par exemple. René, je te laisse la parole. Tu voulais intervenir ?
Oui, non, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec ce que vous disiez. On peut limiter la rupture en utilisant des briques communes et des standards. Après, par contre, il y a quand même l'aspect, ce que disait Damir, migration de données, etc. La gestion du projet pour le faire, éventuellement l'outage que ça va causer. Et tout ça, ça va devenir compliqué quand même pour justifier le retour sur investissement de sortir d'un provider, par exemple d'être chez AWS et de basculer chez Azure. Ça va rendre les choses vraiment, vraiment compliquées. Je pense que le vendor lock-in, il est presque même plus à ce niveau-là que vraiment sur la partie technique.
Ce transfert des données, tu parles du coup ?
Ouais, transfert des données, puis prévoir tout ça, prévoir ce projet-là, remonter l'info en face. Ça te met déjà la barre sur un projet. Déjà, faut vrai. Enfin, tu vas te dire, ça va me coûter tant pour sortir versus rester. Est-ce qu'il y a une réelle différence du coup pour motiver la sortie ? Faut vraiment que ça vaille le coup, quoi.
Mais je pense que ce que Damien disait, c'est que en fait, on revient un peu au truc récurrent qu'on dit depuis le début, mais c'est que c'est le problème a toujours été là quand tu étais face à ça, et c'est juste ça a changé effectivement un peu de forme, mais ton transfert de données, quel que soit ton contexte, on-premise ou quoi que ce soit, tu vas devoir le gérer. J'imagine quasiment de la même façon, quoi.
Mais après, c'est vrai que des fois, le prix peut être un peu aussi plus différenciant. Mais après, tu avais beaucoup de coûts un peu cachés avant, et surtout aujourd'hui, avec l'avènement de la data, ça peut revenir très vite très cher. Moi, je vois le projet sur lequel je suis, il y a des pétadonnées, en fait. On parle en pétadonnées. Clairement, si on part d'AWS, on sait que ça va avoir un coût. Mais ça, il faut en avoir conscience dès le début, il faut acter qu'on le sait.
Ouais, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, si tu pars vraiment sur une solution, sur un provider, souvent on entend dire ouais, tu peux re-switcher facilement à un autre. Moi, je trouve que c'est pas forcément. Rien n'est impossible, mais ce coût de switch, il est loin d'être négligeable, surtout si tu as beaucoup de volumétrie de données, par exemple. Et du coup, t'es quand même un petit peu marié avec lui pendant un bon moment, je pense.
C'est plus là-dessus, moi je rejoins tout à fait René, c'est que en fait, y a dans l'imaginaire collectif, il y a une espèce de fausse promesse sur « non mais t'inquiète, si un jour tu dois, tu peux ». Et en fait, c'est ça que, s'il y a un truc que je pense à retenir de la discussion, c'est que oui, tu peux, mais ça va te coûter du temps, des sous, et que ça va pas être évident, quoi. Et ça, faut le garder à l'esprit. Après, finalement, c'est des projets de migration comme d'autres, mais il y a une espèce de fantasme autour de ça, en disant non mais t'inquiète, ça va le faire, c'est facile, regarde, clicou, t'as la même infrastructure à gauche comme à droite, mais en vrai, tu sais très bien que c'est pas aussi simple, quoi.
Règle numéro 1 dans l'informatique, quand quelqu'un te dit t'inquiète, je sais, c'est facile, tu ne l'écoutes plus, tu abandonnes, tu laisses tomber avec cette personne. Moi, quand quelqu'un vient me fait non mais je sais, c'est facile, je fais ok. Ne me parle plus, en fait. C'est très simple.
Mais je pense aussi que ça dépend de la taille de l'infrastructure qu'on colle dans les services managés, parce que si on est au tout début, la première ou la deuxième année, où on n'a peut-être pas une volumétrie énorme, peut-être c'est plus facile qu'en effet quand on a des dizaines de milliers de machines avec des pétaoctets de données, hein, évidemment.
Mais ça, c'est pareil, tu vois, ça revient même que dans le on-premise, quand tu as ton data center, c'est toujours plus simple de déménager, entre guillemets, quand tu as juste 2-3 serveurs de racket. Mais quand tu commences à avoir des interconnexions, des backbones, des peering, tu es un AS, peut-être que tu es un AS, donc il faut changer après potentiellement les règles de routage, etc. Très vite, c'est une catastrophe aussi. Donc en fait, c'est toujours pareil, ça dépend, c'est une problématique d'échelle et de contexte. Dans tous les cas, quand on s'engage avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une techno ou quelque chose, même sur un ordinateur ou sur un logiciel, faut savoir derrière que du coup, si tu veux changer, ça va te demander un effort. Il faut savoir le quantifier, il faut savoir si tu es prêt à prendre ce risque de peut-être devoir changer et devoir fournir cet effort. Mais c'est, il faut en avoir conscience, c'est tout.
Oui, il faut bien étudier son cloud provider avant d'y aller, en fait.
Ouais, moi je crois qu'il y avait eu une histoire avec Lyft. Je crois que c'est Lyft qui avait un peu communiqué là-dessus, où ils sont chez AWS, je crois, et donc ils ont beaucoup d'infra, forcément. Et je crois qu'ils avaient fait une étude pour sortir. parce que effectivement ils payaient des factures assez colossales, et ils se sont dit bah ouais, on réfléchit pour sortir, mais sauf que le projet pour sortir c'était un projet à je ne sais combien d'années quoi, ça se chiffrait en années quoi. Donc ils savaient que déjà jusqu'à 2000 je sais plus combien ils devaient payer leur facture à AWS et qu'elle allait clairement pas descendre. Et donc après la question était, est-ce qu'ils s'engagent à faire un projet pour partir ou pas, est-ce que ça vaut le coup quoi.
Du coup, en parlant de la confiance, est-ce qu'on doit faire confiance à son cloud provider pour les backups? Est-ce qu'on doit les dupliquer et ce genre de choses?
Moi, je sais que les quelques projets qu'on a qui utilisent donc du AWS ou du Scaleway avec des bases de données managées, on a des scripts de backup qui, en plus, exportent les trucs enfin ailleurs, en plus de tout ce que eux font pour nous. Je sais pas si personne me l'a imposé. Je l'ai fait peut-être parce que j'ai un côté psychorigide ou je sais pas, mais ou que ça me rassurait. Je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus.
Moi, je vais faire une référence à un autre podcast qu'on a fait sur les news de novembre ou décembre, je ne sais plus, où on parle de pas mettre tous ses yeux dans le même panier, qu'on peut, et notamment il y a eu un interview sur un problème de sécurité sur AWS, et du coup c'est un peu cette problématique-là est mise en évidence. Bref, en tout cas, ces backups, il faut faire attention. En tout cas, il faut peut-être penser à des fois les isoler si on veut pas changer d'avoir un deuxième fournisseur, ce qui, je pense, est peut-être le mieux. Mais au moins, des fois, les isoler sur une autre région. Et ouais, je pense qu'il faut quand même bien faire attention à ces aspects-là.
Ah, moi, je pense que je vais faire mon vieux con et la commu de Radio DevOps va finir par me détester. Mais encore une fois, tes backups, quand tu les faisais chez toi en on-prem, qu'est-ce que tu faisais? Tu les mettais sur bande ou sur des disques et tu allais les mettre autre part, en fait. C'est con, tu le faisais déjà à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est pareil, quoi, tu fais la même chose. Pour la petite anecdote, il y avait une salle serveur qui avait cramé quand j'étais plus jeune. Et on était bien content d'avoir les backups qui étaient dans un autre bâtiment, en fait. T'es toujours content dans les cas-là. Donc pour le coup... C'est con, mais c'est pareil. Oui, on l'a toujours fait. Maintenant, il faut continuer à le faire. Après, est-ce que pour les backups, au moins, les choses comme ça, peut-être prévoir un PRA si c'est nécessaire. Et surtout, je réinsiste là-dessus, tester tout ça. Si jamais vous ne testez pas, ça ne sert à rien, en fait, qu'on sait que ça ne marche pas. Mais pour le coup, oui, c'est important. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire du multi-cloud. Vous avez peut-être juste besoin de backup. Vous pouvez faire du multi-cloud, des choses comme ça. Mais le multi-cloud, c'est quelque chose qui a un très gros coût parce qu'il faut suivre deux choses, deux technos en parallèle. Et vous allez avoir un gros souci avec le multi-cloud, qui est pour moi le plus gros souci à l'heure actuelle et qui fait qu'on ne peut pas avoir d'outils en fait totalement standardisés. C'est qu'ils ne vont pas avoir le même niveau de service, ils ne vont pas offrir les mêmes options. Ça va être hiérarchisé différemment, ça va fonctionner autrement. Donc, si vous allez devoir maintenir deux choses en parallèle, il faut deux fois les compétences en parallèle et il faut deux fois repenser les choses en parallèle pour être efficace. Donc, cette problématique de coût, il faut la garder en tête et voir ce qui est nécessaire pour vous, en fait.
Il faut avoir des vrais besoins. Alors, je vois qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. De toute façon, on va aller vers la clôture. Moi, je vais finir par vous rappeler la règle des 3-2-1. Damir en parlait... avant et même encore maintenant, on a des multiples bandes. Alors du coup, la règle des 3-2-1, c'est avoir trois espaces, enfin trois endroits où on met nos données en live, sur deux supports physiques après, et puis un, c'est sur un lieu offline, donc en dehors du data center. Et nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met toutes nos données sur des disques block storage ou object storage. Et donc, ces techniques-là sont redondées trois fois, donc on a le 3. Et puis après, ce qu'on fait, c'est que nos object storage ou nos block storage, on les sauvegarde sur un autre object storage et sur notre serveur Borg qui est en dehors du data center qu'on héberge chez un autre data center. Donc, je vous encourage en effet à sortir vos sauvegardes du data center parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Soit il est coupé du monde, soit il a brûlé, soit il y a une tornade, je ne sais pas. Soit il y a un embargo, on n'en parle peut-être pas, mais ça peut arriver. Donc, sortez vos données.
Ouais, soit tu t'es fait piquer tes credentials AWS et tu as quelqu'un de malveillant qui est en train de t'effacer tes backups.
Par exemple, donc oui. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez quelques petites idées avant qu'on clôture, c'est le moment.
juste, si quelqu'un a des vrais arguments pour montrer que les choses ont changé du tout au tout et que les problématiques là n'existaient pas avant à une échelle différente, je serais bien intéressé d'en discuter avec lui sur le forum des compagnons du DevOps ou autre, ça pourrait être très intéressant.
Exactement, je mettrai le lien du message sur le commentaire YouTube. Alors, moi, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt, et je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois, et on va commencer par René.
J'espère que la discussion sera intéressante, et puis, comme tu l'as dit, ne pas hésiter à compléter. On est sur un podcast d'une heure, donc on peut oublier des choses, dire parfois des bêtises, donc il y a le forum pour enrichir ou nous préciser si on a pu dire des bêtises, et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis au prochain podcast.
Encore une fois, une discussion hyper, hyper intéressante. Moi, ce que je retiens, c'est ce que Damir a répété sans cesse, c'est que les choses ont juste évolué. Moi, je rappellerai aussi que ces services managés sont pas magiques. Il faut quand même les apprivoiser en quelque sorte. Et que ça rend malgré tout des super services, c'est quand même une super évolution qu'on a aujourd'hui de pouvoir utiliser tout ça. Et puis je finirai par Peluche.
Et du coup, moi je vais prendre la parole avant de laisser terminer Christophe. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que je me suis pas trop répété sur ma fameuse position. Mais pour le coup, non, c'était. Je pense que c'est un sujet qui est très important aujourd'hui et qu'il faut bien avoir en tête. Et mon petit conseil, ça va être comme je le disais, quand quelqu'un vous dit que c'est quelque chose est facile ou qu'il sait. Laissez-le faire, en fait. Prenez pas la tête, laissez-le faire dans un coin. Il vous rappellera quand il se rendra compte que ce qu'il fait, ça ne marche pas et ça marchera jamais, en s'excusant. Donc, faites ça, ça vous fera gagner du temps.
Et puis moi, je vais finir par dire, même si vous utilisez des services managés, ne sous-estimez pas votre besoin d'avoir des ops avec vous quand même. Parce que c'est important.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.